quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais?
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous de Séquence Midi, votre émission d'actualité en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda, votre rendez-vous cinéma du mercredi. On partira aussi en reportage, retour sur la manifestation du 1er mai et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, on accueille Aloïse Gabory qui est conseiller municipal délégué à l'urbanisme foncier à la ville de Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous évoquer une sensibilisation à la transition écologique qui a eu lieu en direction des acteurs sportifs de la ville de Poitiers. Alors déjà, pourquoi mêler les acteurs sportifs de ces questions de transition écologique ?
Oui, alors en fait, c'est plus qu'une sensibilisation, hein, parce que c'est un véritable programme d'accompagnement et puis la construction d'une feuille territoriale, d'une feuille de route territoriale, pardon, territoire de Grand Poitiers. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a quasiment 3 ans maintenant, Grand Poitiers a lancé un dispositif qui s'appelle Acteurs engagés pour la transition écologique avec Grand Poitiers. L'idée de ce dispositif, c'était au départ de pouvoir accompagner les acteurs économiques du territoire sur des sujets de transition écologique, la mobilité, l'énergie, l'eau, l'alimentation, etc. Ce dispositif a été un franc succès. Et on a été sollicité par pas mal d'acteurs du territoire, des acteurs culturels, des acteurs sportifs, des associations, etc., qui disent bah, « pourquoi pas nous ?». Donc, il y a eu différentes diversifications, si je peux dire, de ce dispositif qui ont été déployés. Une sur les acteurs publics du territoire, le CHU, l'université, Poitiers, Grand Poitiers, etc. Et les acteurs institutionnels, pardon. Et puis les acteurs sportifs, on était dans la continuité de Paris 2024. Et donc, il fallait faire vivre cet héritage de Paris 2024. Et donc, on a saisi l'opportunité, y compris parce qu'on est largement accompagné par l'ADEME sur le sujet.
Et quel est l'objectif ? Parce que vous avez mis en place des ateliers participatifs. Quel était l'objectif ?
L'objectif, il est double. Il est d'abord de pouvoir comprendre quelles sont les attentes des acteurs sportifs du territoire. Je dis acteurs sportifs parce qu'on parle à la fois des clubs amateurs et puis des structures de haut niveau, voire de très haut niveau. Donc, et leurs attentes ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, dans cet objectif-là, il y a eu une grande enquête qui a été menée. Tous n'ont pas répondu, mais quand même une majorité ont répondu. Voilà, pour comprendre quels étaient leurs besoins en la matière. Est-ce qu'on parle plutôt du matériel ? Est-ce qu'on parle plutôt de la mobilité, des licenciés, etc. ? Enfin voilà, comprendre. Et puis pouvoir apporter les réponses ensuite. Et puis le deuxième sujet, c'est avoir une feuille de route territoriale, Grand Poitiers. Que veut Grand Poitiers pour la transition écologique du sport ? De quels moyens on se dote ? Vers où on accompagne les acteurs du territoire ? Et donc l'idée, c'est de pouvoir co-construire ça ensemble.
Est-ce que vous pouvez nous parler donc des deux ateliers qui ont eu lieu, un petit peu, voilà, de nous donner un aperçu, qui était présent déjà et qu'est-ce qui s'est dit ?
Alors effectivement, on a eu deux ateliers en soirée qui faisaient suite justement au questionnaire qui a été passé au préalable. L'idée de ce questionnaire, donc je le disais, c'était de comprendre les attentes. Et à partir de ce questionnaire-là, on a pu identifier des grandes thématiques. Ce qui ressort en préoccupation principale, c'est l'achat de matériel, qui est très coûteux financièrement, mais aussi en termes de ressources naturelles, en termes d'émissions de carbone, etc. L'enjeu de la mobilité, évidemment, mais mobilité dans les deux sens. C'est-à-dire que le déplacement des licenciés, des sportifs, et puis le déplacement des supporters, plutôt côté haut niveau. La question de l'alimentation, etc. Donc ça nous a fait ressortir des grandes thématiques. Et donc, on a pris le temps de ces deux soirées pour approfondir un peu plus ces thématiques, comprendre quels étaient les leviers d'action et quels étaient les blocages aussi. Et puis de pouvoir voilà, récupérer toute cette matière-là. Et nous, à partir de maintenant, Grand Poitiers et puis les cabinets qui nous accompagnent, l'ADEME, etc., on va retravailler toute cette matière-là pour à la fois proposer une offre d'accompagnement et puis une première feuille de route martyre, en quelque sorte, qu'on retravaillera après avec les clubs et les acteurs sportifs, etc., à la rentrée.
Qu'est-ce que vous avez retenu ? Bon, alors, tout n'a pas encore été compilé, mais qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans les attentes et dans, effectivement, les préoccupations des acteurs du sport ?
Déjà, je pensais pas que le classement des priorités arriverait dans cet ordre-là. Spontanément, on parle tous de la mobilité quand on parle du sport. Finalement, c'est entre guillemets qu'en deuxième. Et la question du matériel arrive très fortement, et donc ça fait écho à des choses qui ont déjà été mises en place côté Poitiers, Grand Poitiers, notamment la recyclerie sportive, avec cette entrée sociale de pouvoir proposer du matériel à moindre coût à tout le monde, mais aussi finalement cette entrée écologique de dire on n'a peut-être pas besoin d'acheter des ballons neufs à chaque saison, des crosses de hockey, etc., etc. Donc on a déjà des clubs qui sont sensibilisés à ça, qui n'ont pas forcément toujours les moyens de leur ambition, et donc peut-être qu'on a un enjeu à mutualiser et à se dire que chaque club individuellement n'aura pas la possibilité de le faire, mais en ayant une structure qui coordonne tout ça à l'échelle de Grand Poitiers, ça peut être intéressant. Et puis on s'est aussi rendu compte qu'il y avait une grande envie d'y aller, que ce soit de la part des présidences des clubs, des bénévoles, des licenciés, et peut-être pas toujours l'énergie, le temps, avant même les moyens financiers en fait. Et donc là aussi il y a quelque chose à réfléchir sur le sujet.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'idées, de propositions qui ont pu émerger pendant les débats ?
Alors ça, je ne les ai pas tellement en tête, parce que l'idée aussi de ces ateliers-là, c'était de laisser la place aux acteurs, et donc finalement, nous mettre un peu en retrait. Donc je n'ai pas vu toute la matière qui a été produite dans ces moments-là. J'en ai déjà cité quelques-unes, la recyclerie, le matériel, etc. Forcément, des choses un peu plus évidentes, entre guillemets, le covoiturage, l'installation de fontaines à eau plutôt que les bouteilles en plastique, etc. Donc ça, c'est des choses, je ne sais pas, je ne suis pas encore en capacité de dire quelles sont les nouvelles idées qui ont été proposées.
Et alors, quels sont les objectifs que Poitiers, Grand Poitiers veulent se fixer suite à ces échanges-là et suite à cette feuille de route ?
Il y a un enjeu d'accompagnement des clubs, dans la mesure où, côté Poitiers, on a mis en place des critères dans l'octroi des subventions, et l'enjeu environnemental rentre en ligne de compte. Côté Grand Poitiers, sur le sport de haut niveau, Charles Robert-Chambillot a accompagné les clubs sur des conventions pluriannuelles d'objectifs avec les clubs sur 3 ans. Donc ça leur permet d'avoir de la visibilité sur les financements, de ne pas se poser la question à chaque saison de combien ils auront. Mais en contrepartie, il y a des objectifs, il y a une stratégie à mettre en œuvre. Et donc forcément, l'enjeu environnemental rentre en ligne de compte. On ne peut pas juste imposer ça en leur disant maintenant faites attention à l'environnement et puis sinon vous n'aurez pas d'argent. Il faut accompagner, donc ça c'est le premier enjeu. Et puis accompagner sur quoi ? Et parce que la transition écologique, c'est hyper large, et peut-être que nous, on se plante en disant il faut d'abord accompagner sur la mobilité, là où l'envie, c'est plutôt le matériel. Donc, c'était de comprendre sur quoi ils avaient envie d'être accompagnés. Et puis, peut-être que demain, il y a des actions un peu plus précises qui devront être menées, mises en place sur certains sujets. Et donc, c'est de pouvoir co-construire ça avec eux.
Donc oui, c'est créer des mesures incitatives ou des aides éventuellement pour aller vers cette transition.
Oui.
Ou alors, au contraire, pour ceux qui n'iraient pas, d'être un petit peu sanctionnés, entre guillemets.
D'abord incitatif, et on va être optimiste et miser sur la qualité de l'humain pour pas avoir besoin d'aller de taper sur les doigts, mais de ne fonctionner que sur de l'incitatif. Et puis ce dont on se rend compte aussi, on s'en était rendu compte sur Acteurs Engagés, on s'en rend compte là aussi, c'est de créer des ponts et de faire en sorte que les structures se parlent. Que ce soit des entreprises, des acteurs culturels ou des acteurs sportifs, on est tous dans notre couloir ou dans notre ligne d'eau, ça dépend quel sport on fait, et on regarde pas forcément le voisin. Et en fait, il y a forcément des synergies à créer. Et donc, ne serait-ce que de faire en sorte que les gens se parlent et que les synergies se créent, ce sera déjà une réussite, en fait.
Et est-ce qu'on arrive à évaluer l'empreinte carbone du milieu du sport, en fait ?
Oui, j'aurais pu les prendre, mais j'ai pas les chiffres. Le cabinet qui nous accompagne nous a donné des grands chiffres. Par exemple, on sait que sur des événements comme les Jeux Olympiques, c'est pas l'événement en lui-même qui émet énormément de CO2, c'est tout le public qui vient de partout dans le monde. Et c'est pareil sur nos événements sportifs locaux. Quand on a un match du PB 86 ou de l'Alternat SPBB, c'est plus d'actualité. C'est le public en fait qui émet énormément. Donc là, on a ces grands ordres de grandeur. On sait combien émet les ballons pour les différents sports, les haies, etc. Et donc ça, on a les grands ordres de grandeur. Le cabinet a pu nous les décliner localement aussi. Donc on a cette idée-là. Mais je les ai pas en tête.
Mais ça pourrait être effectivement pour le matériel, essayer de s'approvisionner plus dans la région. Oui. Ça peut être des choses comme ça, parce que c'est vrai que le matériel peut venir de très loin en réalité.
Oui, et là, pour le coup, il y a un vrai levier de développement économique et de structuration de filières. On sait qu'on a des clubs du territoire qui aimeraient bien, par exemple, produire leurs maillots en local. On n'a pas forcément les acteurs idoines pour le faire. On a des acteurs de l'habillement hein, qui pourraient le faire, mais il y a une technicité et un matériel particulier pour les tenues sportives, par exemple. Et donc, potentiellement, si le souhait est émis, on peut mettre en relation les acteurs sportifs et les acteurs industriels. Ça permet de structurer la filière, ça permet de développer économiquement le territoire et puis donc d'avoir des vertus environnementales.
Et pour les clubs qui n'auraient pas participé à ces ateliers, ils étaient combien finalement à répondre au questionnaire dans un premier temps et à participer aux ateliers ?
Je crois que c'était une grosse centaine qui ont répondu au questionnaire et puis une trentaine qui ont participé aux ateliers. Alors ça peut paraître gros en termes de déperdition. On savait qu'en organisant des ateliers en soirée au printemps, au moment où plein d'événements sportifs, les entraînements, etc., ont lieu, enfin reprennent pour beaucoup, ce serait compliqué. Donc bon, c'est plutôt bien quand même. Et c'est pas trop tard pour ceux qui n'auraient pas participé. La ligne est toujours ouverte évidemment. Et puis il y aura d'autres événements après l'été pour continuer à travailler sur le sujet.
Et justement, comment ils peuvent prendre le train en route entre guillemets ?
Bon, la plupart ont les contacts des personnes référentes dans les services de Grand Poitiers. Les élus aussi sont connus. Et puis le cabinet va faire des relances aussi parce qu'il y a l'enjeu, comme pour acteurs engagés sur le volet économique, d'accompagner des promos en collectif et en individuel. Et donc là, il y aura un appel à candidature aussi. Et donc, il y aura de nombreuses relances qui seront faites pour y parvenir.
Et le calendrier, là, pour établir cette feuille de route
On s'est dit qu'il fallait qu'on ait une version de travail avant l'été et puis une proposition qu'on affinera et qu'on validera sur le deuxième semestre de l'année 2025. L'idée, c'est d'avoir quelque chose avant la fin de l'année.
Donc avec des nouveaux ateliers avant la fin de l'année.
Avec des nouveaux ateliers, avec des accompagnements individuels, enfin en tout cas des structures à accompagner individuellement. Enfin, qu'on ait tout le package avant la fin de l'année.
Merci beaucoup, Aloïse Gaboré, d'être venue nous parler donc de cette démarche d'atelier et de feuille de route pour tous les acteurs sportifs du territoire. Merci bien.
Merci pour l'invitation.
On continue en musique avec Roseau et là, il est en collaboration avec Mélissa Lavaux sur ce titre « Why should I smile ?»
Why should I smile? Why should I smile for you? Voice once sublime, now whistle sour tunes. I had no time for cheap words, table wine. I have no time for thin saris from a swine. Why should I smile? Why should I smile for you? Tongue once divine, tasting foul since June. I have no space for double faces on my dime. I have no grace for my lovers in my crimes. Another day without you. I'm better off without you. Another day without you. I carry on. Why should I smile? Why should I smile for you? Action so vile. Speak clear and loud of you. I pay no mind to your begging and your pleas. I pay no mind even though you're on your knees. Another day without you. Thank you.
Pulsar, c'est la radio chaude et urbaine qui ne renie pas son implantation dans la Terre.
Sans doute. C'est d'ailleurs la seule explication possible.
Pulsar.
Jeudi dernier, c'était le 1er mai, ça, vous ne l'avez pas raté forcément, et c'est le jour des manifestations des travailleurs. Loïc était sur place à Poitiers.
Alors ça y est, on est en bas de la rue Jean Jaurès, le cortège est en train de se rassembler, et je suis avec les manifestants. Dis-moi, qu'est-ce que ça représente pour toi? Pourquoi tu viens ici manifester aujourd'hui?
Alors moi, je viens ici pour représenter les gens qui travaillent. Enfin, moi, j'ai travaillé depuis l'âge de 15 ans et je suis en cumul retraite. Et je vois qu'on nous prend au niveau de ma retraite, j'aurais pas grand-chose. Donc, j'aimerais bien que les choses changent au niveau des jeunes et au niveau des moins jeunes.
Alors, dis-moi, qu'est-ce qui te révolte le plus, soit dans le monde du travail aujourd'hui?
Tout me révolte dans le monde du travail aujourd'hui. Il n'y a aucune reconnaissance des travailleuses réellement qui sont des travailleuses de terrain, etc. Tout est pour le patronat et pour les personnes qui sont plutôt extrêmement trop payées. Il n'y a aucune égalité de chance pour arriver au travail. Non, les qualités des chances, c'est horrible, notamment pour les personnes LGBT, les personnes migrantes et encore plus pour les personnes qui cumulent les vulnérabilités et les minorités. Il y a le manque de reconnaissance du travail du sexe en étant un travail. Il y a tout un tas de choses comme ça qui ne reconnaît pas le travail comme il se doit et qui valorise le patronat, qui valorise le surcapitalisme, et ça c'est un gros problème.
Qu'est-ce que cette journée ça représente pour vous? Vous êtes mobilisé là, à moitié travailleur, à moitié militant de Greenpeace, dites-moi tout.
Oui, bah en fait on est là parce que c'est de plus en plus important, le monde du travail il n'est pas en bonne santé et du coup on doit se mobiliser et continuer d'être unis dans une société qui est parfois un peu désunie, individualiste et où du coup on doit justement réussir à soutenir toute forme d'emploi mais surtout le droit des travailleurs et des travailleuses.
Et le lien qu'on peut faire entre l'ONG Greenpeace et le monde du travail?
Bah en fait, c'est que les questions écologiques et les questions sociales, elles sont complètement liées, quoi. Les atteintes qu'on subit en ce moment, tant sur ce front-là social que sur le plan du respect du vivant, de manière générale, de la biodiversité, du vivant, de la santé des gens, enfin voilà, de manière très globale, les causes sont les mêmes. Hein. On est sur une violence capitaliste très forte et on est sur une montée de l'extrême droite qui nous préoccupe beaucoup et qui montre bien que ces deux enjeux sont complètement liés parce que les attaques sont les mêmes, quoi.
En ce 1er mai 2025, journée internationale des travailleurs, Poitiers-Palestine tient à exprimer toute sa solidarité avec le peuple palestinien, soumis à une guerre génocidaire dans la bande de Gaza et à une intensification du nettoyage ethnique en Cisjordanie et à Jérusalem. Nous saluons les travailleurs de la santé, médecins, infirmiers, secouristes, qui continuent d'accomplir leur mission dans des hôpitaux éventrés, manquant d'anesthésiants, d'antibiotiques, d'électricité pour alimenter respirateurs et couveuses, parfois à la lueur de leur téléphone portable quand ils peuvent en charger les batteries, obligés de trier qui a une chance de survie et qui n'en a pas. Tout cela sous la menace de l'armée israélienne. Hommage aux 1300 professionnels de santé tués de manière indiscriminée ou dans des opérations qui les ont délibérément ciblés, et à ceux qui ont été enlevés par l'armée israélienne et emmenés dans des centres de torture où certains ont trouvé la mort.
Le 1er mai est une date historique internationale de lutte des travailleuses, des travailleurs. La coordination féministe appelle à l'investir comme une journée de lutte féministe, de solidarité et de défense de nos droits et de nos existences. Partout dans le monde, les gouvernements néolibéraux, réactionnaires et d'extrême droite attaquent les travailleuses et leurs droits, en aggravant sans cesse les inégalités sociales, en détruisant les services publics, en épuisant les ressources naturelles, ces dirigeants nous conduisent au désastre. De Macron à Trump, en passant par Mélanie ou Milei, nos vies sont menacées par leur projet de guerre impérialiste. En France, l'extrême droite s'illustre toujours et encore par son mépris envers le monde du travail. Dès qu'elle en a l'occasion, elle vote contre l'amélioration des conditions de travail et des droits sociaux. En refusant l'augmentation du SMIC et l'indexation des salaires sur l'inflation, en refusant de taxer les riches, elle contribue même à la baisse des salaires réels. En créant la misère sociale, au travers des attaques contre l'assurance chômage, de la réforme du RSA ou encore de l'arrêt des subventions aux associations et du désinvestissement des services publics, secteur essentiel, la Macronie déroule le tapis rouge à l'extrême droite. Nous refusons que nos existences soient ainsi soumises à des intérêts économiques et classés selon une idéologie raciste et sécuritaire. Les salariés avec leurs syndicats défendent la coopération et la solidarité concrète entre les travailleurs et les travailleuses du monde entier. Plutôt que le moins-disant social et la concurrence entre les salariés organisés par les détenteurs des multinationales pour leurs seuls intérêts, le meilleur protectionnisme et l'amélioration des droits sociaux et environnementaux ici et là-bas.
Merci Loïc de t'être rendu sur place donc à cette manifestation du 1er mai. Et tout de suite, c'est l'heure de votre rendez-vous cinéma avec Erwan qui est service civique au cinéma Le Dietrich. Bonjour Erwan.
Bonjour.
Partir un jour. Voilà le thème de ta chronique du jour.
C'est ça, tout à fait. Alors bon, cette semaine, du coup, on va tordre quand même un peu les règles. Je vais vous parler d'un film qui ne sort que la semaine prochaine, mais dont Le Dietrich va assurer l'avant-première mardi soir. Ce sera donc l'ouverture du Festival de Cannes avec une comédie romantico-musicale, comme tu l'as très bien chanté juste avant. Ce sera le premier long-métrage d'Amélie Bonin, donc Partir un jour. Pour vous mettre au parfum en quelques mots, Partir un jour, c'est l'histoire de Cécile, jouée par Juliette Armanet, qui doit rentrer dans son village d'enfance alors qu'elle doit prochainement ouvrir son restaurant gastronomique sur Paris. Elle va recroiser Raphaël, incarné par Bastien Bouillon, son amour de jeunesse, qui va la faire se remettre en question sur ses choix, ses certitudes et faire ressurgir des souvenirs qu'elle croyait disparus. Si jusque-là vous avez l'impression de connaître un peu cette histoire jouée par ces acteurs-là dans un film du même nom, ne vous étonnez pas car vous avez bien raison. Le film, c'est l'adaptation en long métrage du court-métrage éponyme réalisé par la même réalisatrice avec le même nom et peu ou prou le même casting qui avait été récompensé au César 2023 et qui avait rencontré un certain succès d'estime auprès du grand public. Ici donc on ne change pas une équipe qui gagne, on reprend les mêmes et on recommence, à ceci près que l'histoire a été inversée entre le court et le long métrage. Dans le court métrage, c'est Bastien Bouillon qu'on ne se lasse plus de voir depuis quelques années entre le succès de La Nuit du 12 ou encore son rôle d'antagoniste dans Le Comte de Monte Cristo. C'est lui donc qui était parti vivre son succès de romancier à Paris et qui revenait dans son village natal, retrouvait son amour de jeunesse en Juliette Armanet, elle qui n'avait pu se défaire de la petite ville normande dans laquelle ils habitaient tous les deux. Dans le synopsis donc que je vous ai raconté plus tôt, vous voyez que les rôles se sont inversés, c'est elle qui revient dans le village où lui est resté cette fois, ce qui en soi n'est pas inintéressant pour rebattre les dynamiques entre les personnages, éviter bien sûr la sensation de déjà-vu et de simple étirement de l'histoire sur une heure et demie, et pour pourquoi pas raconter autre chose sur la réussite féminine plutôt que masculine dans une société traversée par les inégalités hommes-femmes, on le sait. Partir un jour, comme le titre l'indique, c'est une tristesse un peu douce-amère de quitter ce que l'on a toujours connu pour l'inconnu, mais c'est en même temps un espoir, un geste empreint d'optimisme qui nous fait espérer le meilleur pour la suite. Et comme le film est aussi percutant que le court-métrage d'origine, il ne faudra bien évidemment pas louper la sortie du film dès ce mardi 13 mai au cinéma Le Dietrich. Et donc oui, bien mardi 13, car ce sera l'avant-première du film en simultané avec l'ouverture du Festival de Cannes. C'est une première au cinéma Le Dietrich. Et pour cette soirée très spéciale, on met les petits plats dans les grands avec dès 18h15 un cocktail offert et un tapis rouge pour ramener un peu de la croisette sur Poitiers. La cérémonie d'ouverture vous sera proposée sur grand écran en direct à 19h, suivie de la projection de Partir un jour à 20h. Et on vous y attend nombreux et nombreuses avec votre plus belle tenue, bien entendu.
Waouh, le Festival de Cannes à Poitiers, merci beaucoup. Ce midi, hein, on fait le pont, on se retrouve lundi. Mais tout de suite, c'est l'heure de votre agenda et il est présenté par Rachel.
Bonjour tout le monde. Tout d'abord, l'exposition de Shana Wang, la danse des corbeaux au local. Actuellement étudiante à l'EFSI Poitiers en deuxième année, elle travaille autour de projets mêlant mapping d'animation 2D, peinture grand format, peinture sur toile et poésie illustrée. Le vernissage se déroule aujourd'hui à 17h30 et l'exposition est disponible jusqu'au 4 juin sur les horaires du local. Puis direction Saint-Benoît avec l'exposition cette fois de Jean Duré, Prendre le temps. Saisir les scènes de vie, observer le paysage, chercher le détail sont les moteurs du photographe pour figer des instants vécus au cours de ses voyages et de ses rencontres. L'exposition dure jusqu'au 20 mai à la salle capitulaire. Retrouvez ensuite la troisième édition du Forum des Vacances. Cette journée est l'occasion de découvrir les activités, les sorties et les séjours proposés par la ville de Poitiers et les associations du territoire pendant les vacances d'été 2025, de vacances pour toutes et tous. Ça commence à 15h et ce jusqu'à 19h au sein du centre socio-culturel Cap Sud. Pour les 80 ans de l'armistice de 1945, venez assister aujourd'hui à un cycle de conférences. À 15h, retrouvez la balade urbaine, Poitiers et la Seconde Guerre mondiale, le bombardement de 1944 et la reconstruction par Elisa Moir, guide conférencière qui commence devant le TAP. Ou sinon, à 18h, la conférence Reconstruction, aménagement et extension de Poitiers par Jérôme Grévy, professeur en histoire contemporaine à l'Université de Poitiers qui se déroule à l'Hôtel de Ville. Et enfin, côté cinéma encore, mais cette fois au TAP Castille, le film Les Enfants Rouges de Lofty Achour. Alors qu'ils font paître leur troupeau dans la montagne, deux adolescents sont attaqués. Nizar, 16 ans, est tué, tandis que Kashraf, 14 ans, doit rapporter un message à sa famille. Il y a deux séances disponibles aujourd'hui pour ce film, une à 14h et une à 20h45.
Merci beaucoup Rachel, toi on te retrouve dès vendredi 8h pour une nouvelle édition d'Espace Matin entre 8h et 9h, votre émission d'actualité. Sur Pulsar ce soir à 21h, c'est l'Indépendance, votre émission de Novo Pop, et à 23h, Sonokino, un voyage dans les images et le cinéma. Merci Angélique pour la réalisation technique de cette émission. On se quitte avec ce titre de Sam Sauvage, ça s'appelle La fin du monde. Bon après-midi en musique.
Regardez.